Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Jérémy Besset,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Sur la couverture de l'album 8 manches de violoncelle surgit du parquet, volutes et chevilles fièrement dressées vers le plafond. Et au milieu, Imani, large créole et majestueuse robe rouge, assise dans un fauteuil, se détache sur le verre de la pièce, le regard déterminé. Et c'est exactement comme cela quand vous écoutez l'album. La voix chaude de l'artiste sublime ses mots et ses mélodies que nous connaissons tous, chantées par Madonna, Cat Stevens, Jacques Brel, Bonnie Tyler, ou encore Ed Sheeran, Tattoo, Henry Salvador et Elton John. Elle nous surprend et leur donne un nouveau relief, une nouvelle sensibilité, car avec cet album de reprise, Imani fait vibrer ses cordes sensibles et les nôtres. Voodoo Cello est disponible chez Singzik et vous m'en direz des nouvelles.
White lips, pale face, breathing in snowflakes, burn lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class A team, she's stuck in her daydream, been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries, and they scream the worst things in life come free to her, 'cause she's just under the upper hand and goes mad for a couple grands. She don't wanna go outside tonight, 'cause in a pipe she'll fly to the motherland and sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly.
Bonjour Imani.
Bonjour.
The A-Team, reprise d'Ed Sheeran, évidemment, un des 13 titres de ce nouvel album. Le clip est disponible, vous l'avez tourné dans un très très bel écran, un très bel endroit, c'est le Petit Palais hein, à Paris, c'est ça. Et on vous voit donc avec ces 8 violoncellistes qui vous accompagnent dans cette aventure. Le clip est très beau, j'ai commencé en évoquant la couverture précisément. Est-ce que le visuel, c'est aussi important, que ce soit dans une pochette ou pour un clip, que la musique en elle-même?
Oui, c'est aussi important. Ça n'est pas plus important, mais c'est aussi important. C'est un peu comme le titre d'une chanson ou le titre d'un album. C'est aussi important que les paroles, parce que, en tout cas, pour moi, ça, c'est comme le titre d'un livre. Ça m'arrive très souvent d'acheter un livre, d'abord parce que le titre, il m'a parlé. Et ça veut pas dire que j'ai pas lu des livres géniaux dont j'aimais pas les titres, mais généralement, je trouve que c'est la première impression. Il faut que ce soit la bonne et il faut attirer les gens. Et surtout, il faut qu'avec le visuel, très très vite, les gens comprennent ce qu'on a envie de dire.
Il faut qu'on soit déjà dans un univers,
oui, voilà,
avant même d'écouter les morceaux.
Ouais, c'est un propos quand même qu'on essaie d'avoir. Donc, c'est et visuel et auditif. C'est un tout, oui.
Alors, 5 ans sans album quand même. Imani, vous avez besoin de faire une pause ?
Il y a plein de choses, c'est que c'est vrai que ça fait 5 ans pour celui qui achète l'album il y a 5 ans et qui m'attend, mais sur ces 5 ans, il y a quand même eu 3 ans de tournée, donc il fallait les faire. Et ensuite, j'ai eu un bébé, il fallait le faire aussi. Et donc, ce bébé, il a 2 ans maintenant, donc moi j'ai l'impression que ces 5 ans, ils ont passé très très vite par contre. Et aussi, pour faire un travail comme celui-là, il faut du temps quand même, ça m'a pris, je ne l'ai pas fait en 6 mois.
J'imagine.
Non. Et puis, j'avais besoin aussi, en effet, de faire une pause. J'avais fait quand même 2 grosses tournées, 2 albums, dont des titres qui ont marché à l'international. Donc, ils m'ont demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement. Et voilà. Et puis, il y a eu ce bébé du miracle qui est arrivé, le deuxième. Et il fallait aussi s'en occuper. Donc, c'est un ensemble de choses qui font qu'on fait un album tous les 5 ans.
Alors, pourquoi un album de reprise et pourquoi un album de cordes?
L'album de reprise, j'avais envie de le faire depuis longtemps. Il y a vraiment une dette que j'avais envie de payer envers ces chansons qui m'ont donné envie de faire ce métier, envers ces chansons qui m'ont inspiré, qui m'inspirent toujours. Et pourquoi les cordes? Honnêtement, des fois on a des idées, on sait pas pourquoi, elles nous viennent comme ça. C'est d'abord un amour des cordes, j'adore le violoncelle. Et ensuite, un jour j'ai entendu un album des Vitamines String Quartet. C'est des Américains et leur truc, c'est vraiment, c'est un quatuor classique par contre de cordes, rien de sensationnel. Mais par contre, ils reprennent du Tupac, ils reprennent du Muse, ils reprennent des Pixies, mais c'est que de l'instrumental. Et en fait, ça m'a montré que non seulement c'est beau les cordes, mais en plus ça peut être rythmique, ça peut être pop. Et je me suis dit un jour, enfin donc en 2013 pour être plus précis, je me suis dit ce serait génial de faire un projet qu'avec des cordes et une voix. Et aussi de reprise, parce que, en fait, finalement, ce serait le moyen le plus direct pour montrer aux gens à quel point les cordes, c'est versatile.
Alors, le premier instrument à cordes qui vient à l'esprit, c'est le piano. Vous auriez pu faire un piano-voix, vous auriez pu faire une guitare-voix, vous auriez pu faire un violon-voix, vous auriez pu faire un quatuor classique, ou même un violoncelle solo. Vous avez choisi 8 violoncelles, un octuor de violoncelle. Alors ça, c'est pas banal. Expliquez-nous comment cette idée vous est venue.
Ah, pas tout de suite, elle m'est pas venue tout de suite. Au départ, ça, je voulais le faire en quatuor, un peu comme les Vitamine Quartet. C'est vraiment quand j'ai approché un de mes violoncellistes, parce que j'ai toujours eu un duo de violoncelle sur scène, en revanche. Et quand je lui en parle, je lui dis, est-ce que tu veux faire partie du projet? Il me dit, oui, bien sûr, mais tu sais, moi, j'ai un octuor de violoncelle. Ça se fait beaucoup en musique classique. Va écouter parce que je te connais. J'ai l'impression que ça reste de te plaire, parce qu'en fait, avec le violoncelle, on peut vraiment tout faire. Et en effet, je suis allée écouter. Et au bout de 30 secondes, j'étais subjuguée. Et après, c'est devenu une obsession.
Alors, on le sait, hein, le violoncelle, c'est l'instrument le plus proche de la voix humaine. Est-ce à dire que sur cet album, Imani, votre voix à vous, c'est le 9e violoncelle?
Exactement. Soit je dis que c'est 9 violoncelles sur scène, soit c'est 9 chanteurs. Ça dépend des fois. Parce que même le violoncelle, quand il parle de ses parties, il dit ma partie de chant. Donc, le violoncelliste fait chanter son violoncelle. Et moi, je sors le violoncelle de ma voix, d'une certaine manière. Donc, il y a quand même quelque chose de mystique et en même temps d'évident.
C'est-à-dire que c'est votre voix qui s'est accordée au violoncelle ou ce sont les violoncellistes qui vous accompagnent qui se sont accordés à votre voix?
Bah, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. La manière dont j'ai travaillé, pour tout vous dire, c'est que je l'ai faite de manière assez traditionnelle pour moi, en tout cas. Je suis parti d'un voix-guitare. Je prends une version, on va prendre la version d'Ed Sheeran. Je prends la version d'Ed Sheeran, j'essaye de trouver le bon tempo. Est-ce que je l'accélère? Est-ce que je ralentis? Est-ce que je la chante en do? Est-ce que je la chante en si? Et je vois la tonalité, ce que la tonalité suggère. Selon que vous allez chanter un peu plus haut, un peu plus bas, ça peut être plus mélancolique ou plus joyeux, plus lumineux, voilà. Et en fonction de ce que ça me dicte, Je vais dans cette direction. Donc j'ai choisi le tempo, j'ai choisi la tonalité avec la guitare et à ce moment-là je vais en studio. Et à ce moment-là j'enlève la guitare et là je colorie avec le violoncelle. Donc le violoncelle il s'adapte forcément à ce que moi j'ai imposé au départ avec ma tonalité et ma couleur. Mais il y a des fois moi j'ai envie que le violoncelle fasse certaines choses et ça marche pas parce que les fréquences se mangent entre elles avec les miennes. Mais quand même si je pense que j'ai été un violoncelle dans une vie antérieure. Je ne descends pas aussi bas qu'un violoncelle. Un violoncelle, ça descend très bas quand même.
Alors l'album s'appelle Voodoo Cello. Alors cello, on comprend facilement pourquoi. Que vient faire le vaudou là-dedans, Imani?
Le vaudou, en fait, c'est pas si incongru parce que le violoncelle, c'est vraiment un instrument qui est animé. On a l'impression qu'il y a vraiment un esprit dedans. Et d'ailleurs, à l'intérieur du violoncelle, il y a une petite pièce de bois qui s'appelle l'âme et qui vibre, qui est là. Et selon comment elle vibre, ça fait vraiment changer la couleur du violoncelle. Donc ça, c'est magnifique. Déjà, c'est hyper poétique. Mais plus factuellement, c'est un instrument, selon comment vous jouez avec l'archet, ça peut sonner comme une flûte, une guitare disto, un didgeridoo, même des petits animaux qui grinceraient comme ça, ou des chœurs quand vous croisez les harmoniques. Et puis, nous, on est allé très loin. Je me suis inspiré aussi de ce qui se fait beaucoup en musique contemporaine, c'est-à-dire vraiment, on n'a aucune empathie pour l'instrument, on tape dessus, on utilise des outils extérieurs. Donc, on est allé le plus loin possible avec l'instrument sans trop lui faire de mal.
Here I go out to sea again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Gold in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun in your eyes, the heat is in your hair. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. Not stand there on my own.
Wonderful Life, Imani dans VMDN sur RFI, extrait de son nouvel album Voodoo Cello. Alors c'est exactement ce qu'on disait à l'instant là, c'est-à-dire qu'on a l'impression quand on écoute cette chanson, quand on écoute l'intro en particulier, qu'on a écouté vraiment in extenso, parce que pour moi c'est vraiment un des grands moments de cet album Imani, qu'il y a d'autres instruments, mais qu'il y a plein d'autres instruments autour de vous. Eh bien non, ça vous me le garantissez, il n'y a que le violoncelle et votre voix.
Je garantis.
Voilà, donc on a vraiment l'impression, c'est pareil aussi sur l'intro des voleurs d'eau, la chanson d'Henri Salvador, on a vraiment l'impression qu'il y a des percussions, en fait pas du tout, on peut tout faire effectivement avec une voix et des violoncelles, c'est ce que vous nous disiez.
Quelque part il y en a, mais en fait les percussions on les fait sur le violoncelle, voilà. C'est le musicien, on n'a pas, oui, on n'a pas rajouté de tambour, on n'a pas rajouté de caisse claire ni quoi que ce soit. Le plus intéressant c'est même sur Black Little Angels, où vous entendez une caisse claire au départ, et en fait c'est le musicien qui a coincé une feuille à quatre, comme celle-là, dans les cordes, et avec deux archets il tape. Et c'est la vibration des feuilles entre les cordes qui crée le bruit du timbre comme une caisse claire. Donc on s'est vraiment amusé, ouais. Mais il n'y a rien d'autre.
Bon, ça c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que là on est vraiment au cœur de la fabrique du son, au cœur de la fabrique de la musique. Pour les arrangements, vous avez vraiment fonctionné comme ça par expérience, quoi, par intuition, ensuite par test, donc par expérience, et ensuite vous validez ou pas.
Exactement.
C'est comme ça que ça s'est passé.
Ça s'est passé exactement comme ça, parce que moi je suis une autodidacte, donc vraiment la musique, j'ai une approche très instinctive, enfin uniquement instinctive même. J'ai appris avec le temps qu'est-ce qu'un accord, et le nom des accords, et à quoi ça sert. Mais je veux dire, j'ai pas du tout cette approche de la musique comme un violoncelliste justement qui aurait fait 15 ans de conservatoire. Donc c'est exactement ça, c'est une approche expérimentale, c'est moi qui chante les parties aux musiciens, je leur dis je veux que ça. Et alors au début c'était vraiment une prise de tête pour eux parce qu'ils me proposaient non pas complètement, et donc au bout d'un moment on a créé des langages, j'ai créé des propres mots à moi pour que ils comprennent. Je leur dis je veux que ça sonne comme des couteaux qu'on plante dans un corps. Ah ok, d'accord. Donc j'ai beaucoup travaillé avec des images pour qu'ils aillent chercher en eux, avec leur technique, ce que moi j'entendais, mais il me manquait les mots musicaux, en tout cas pour qu'ils comprennent vraiment. Mais en fait on s'est compris quand même.
Donc pas facile pour les arrangements, même si j'imagine qu'il y a dans tout ce travail aussi beaucoup de plaisir et beaucoup de bonnes surprises quand on y arrive, évidemment. Pas facile non plus, j'imagine, Imani, de choisir tout simplement. Comment est-ce que vous avez construit cet album, ces 13 chansons là, pourquoi les avez-vous choisies?
D'abord, il y a eu beaucoup d'intuition, c'est-à-dire qu'on sait à un moment donné, ah tiens, celle-là, c'est la bonne chanson.
Mais c'est-à-dire que vous aviez un immense catalogue, vous êtes dit, on va pouvoir piocher, et il va falloir trouver ce qui correspond à cet univers-là.
Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas comme si j'avais dit, je vais faire un album de reprise de chansons d'amour, ou un album de reprise de chansons d'Aznavour. Voilà, là où quand vous avez un peu une direction, ça va, mais j'en avais pas. Je voulais juste faire un album de reprise avec des cordes. Donc c'est vaste, surtout enfin quand on va chercher dans les 60 dernières années, par exemple. 70 dernières années, il y a pas mal de belles chansons. D'abord, je suis allé sur les coups de cœur de mon enfance, puisqu'on était dans un album qui payait sa dette il fallait que j'aille à la source. Donc, il y avait un titre, par exemple, comme celui de Bonnie Tyler, le Total Eclipse of the Heart, qui était un album que, enfin, une chanson que j'ai beaucoup aimée quand j'étais jeune, que je chantais à tue-tête en chewing-gum dans la rue. Donc, il fallait que je la fasse. Et je savais, en fait, parce que comme les arrangements sont très connotés 80, je savais où est-ce que je pouvais aller.
Ouais.
Donc au départ, je me suis rendu compte que j'avais fait un album qui était très centré sur mon enfance et aussi qui était autour des chansons d'amour. Donc j'avais pas tellement envie de m'enfermer là-dedans. J'avais envie, en plus, que ça parle à beaucoup de gens.
Alors vous parliez de Bonnie Tyler à l'instant, on écoute la chanson et on en parle juste après.
D'accord. Turn around, every now and then I get a little bit lonely. You're never coming round. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous, the best of all the years I've gone by. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes, bright eyes. Every now and then I fall apart, bright eyes. Every now and then I fall apart, and I need you now tonight, and I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. We'll only be making it right, 'cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. Your love is like a shadow on me all the time. I don't know what to do, I'm always in the dark. We're living in a powder cake and giving up sparks. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight.
Voilà, c'est absolument magique ce moment-là. Imani, je vous le disais en antenne et je le dis maintenant à l'antenne parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on entend ces titres, ces reprises, et singulièrement donc Bonnie Tyler et Total Eclipse of the Heart, on a les poils comme ça qui se hérissent sur les bras. Comment ça se crée une atmosphère comme ça? Comment est-ce que vous arrivez à rentrer dans la psyché de celui ou de celle qui écoute?
Alors...
C'est magique. Donc c'est quoi la recette? C'est quoi la potion magique?
Alors... La recette d'une potion magique, il faut jamais la donner.
Oui, bah d'accord, mais on aimerait quand même que vous la partagiez avec nos auditeurs.
La seule chose que je peux vraiment dire, c'est quand je suis rentré en studio, j'ai dit aux garçons, les deux violoncistes qui m'ont aidé à arranger, Julien Grattard et Rodolphe Liskovitch, que j'avais envie que ça sonne comme un film d'horreur. Parce que je m'imaginais cette fille dans les bois, dans la nuit, qui tient la main de cette personne qu'elle aime, et qu'au bout d'un moment, elle sent plus la main, la personne s'en va. Elle se retrouve là, comme ça, sans boussole, sans lampe torche. Et en fait, j'arrive, je leur lance une histoire, je jette le truc. Et à partir des arrangements qui existent déjà, de la mélodie qui existe déjà, on essaie de partir, on part jamais de rien. Et on essaie d'aller dans cette forêt avec cette fille qui se retrouve abandonnée, qui dit « Once upon a time, I was falling in love and now I'm falling apart ». Ça veut dire, un jour comme ça, je suis tombée amoureuse et maintenant je suis plus rien, quoi. Je suis complètement, je tombe de ma chaise, quoi, presque. Et c'est ce vide-là. En fait, ce que je voulais faire, c'était traduire en musique cette chute. Qu'est-ce qui se passe quand tu passes de l'état de tomber amoureuse à l'état d'être en miettes, quoi. Voilà. Et j'avais envie en musique de traduire ça. Voilà.
Entre Bonnie Tyler et Henri Salvador, entre Tatum et Jacques Brel, entre Madonna et Cat Stevens, il y a quand même une marge dans tout ça. Imani, qu'est-ce qui relie tous ces 13 titres que vous avez choisis?
C'est la force des titres. En fait, je suis pas allé chercher les artistes, je suis allé vraiment chercher les chansons. Parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui a été le plus important pour moi dans ma construction artistique. C'est la construction d'une chanson et qu'est-ce qu'une chanson apporte. Donc, c'est la force de la mélodie et la force du texte. Et surtout, il fallait que je puisse m'envisager comme si j'avais été la personne, comme si j'avais pu les écrire, en fait, quelque part. C'est-à-dire que je peux pas chanter une chanson qui parle de la météo. Il faut que ça me parle d'une certaine manière. Il faut que j'ai l'impression d'avoir pu l'écrire, quoi.
Mais alors, justement, chanter ses propres chansons et chanter les chansons des autres, ce sont deux exercices complètement différents ou finalement qui finissent par se rejoindre?
Pour moi, c'est pas un exercice différent parce que surtout quand on arrange les chansons, on y met tellement de soi. quand moi je chante Believer des Imagine Dragons, je me dis que je parle de moi en fait. Je me mets pas à la place du chanteur, je me dis pas tiens qu'est-ce qu'il a voulu dire. Enfin, ça je me pose la question au départ, mais surtout qu'est-ce que les paroles provoquent en moi et comment je les défends derrière. Et c'est pour ça que par exemple ce titre, je m'en suis rendu compte en le chantant dans la cabine d'enregistrement. Je me suis dit, tiens, ça parle de la souffrance des femmes, cette chanson. Alors que je suis pratiquement sûr que le chanteur d'Imagine Dragons...
Non, c'était pas forcément ce qu'il avait en tête.
Quand on voit le clip, on pense pas ça. Et donc, mais moi, quand je le chante, je me dis, je pense même plus précisément aux femmes qui souffrent d'endométriose, donc des femmes qui souffrent pendant leurs règles, mais qui souffrent à un point qu'elles peuvent plus avoir de vie. Et quand, dans la chanson, il dit... pain, you made me a believer. La douleur a fait de moi un croyant. Et en gros, ce qui veut dire, c'est qu'on se construit avec la douleur et on se fait contre et avec cette douleur. En fait, j'y mets tellement de moi-même que c'est pareil, c'est comme si je l'avais écrite presque.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. The way that things have been. Second thing, second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one, not the cell. I'm the mistress of my sea. Yeah, the mistress of my sea. I was broken from a young age, taking my soul king to the masses, writing my poems for the few. Look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain. You made me a, you made me a believer. Believer. Pain, you break me down, you build me up. Believer, believer. Pain, oh, let the bullets fly, oh, let them rain. My life, my love, my drive, it came from pain. You made me a, you made me a believer. Believer.
Believer en version Imani. Imani qui est avec nous dans VMDN sur RFI pour évoquer son nouvel album Voodoo Cello. Alors vous évoquiez à l'instant l'endométriose. Vous nous expliquez, pour ceux qui nous rejoignent, que c'était aux femmes victimes de cette maladie que vous pensiez très fortement lorsque vous interprétez ce titre. Vous êtes très engagé autour de l'endométriose depuis de nombreuses années maintenant, au sein d'une association notamment. C'est une maladie dont on parle de plus en plus d'ailleurs depuis plusieurs années. On peut parler, Imani, d'une sorte de libération de la parole.
Oui, moi je pense qu'on peut le dire. Après, il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de travail. Mais je me rappelle, il y a 7 ans, peut-être, quand je commençais à faire les plateaux et en parler, les journalistes, ils arrivaient même pas à prononcer le nom correctement. C'était vraiment pas connu du tout. Alors que c'est 1 à 2 femmes sur 10 qui en souffrent en France. C'est quand même 2 à 4 millions, c'est pas rien. Et donc, mais maintenant on en parle. En plus, grâce aux réseaux sociaux, il y a des pages qui sont consacrées à ça. Enfin, mais on parle des règles beaucoup plus facilement que lorsque moi j'étais ado, par exemple. Donc, il faut d'abord se libérer de ce tabou, de cette honte qui nous a été imposée pour pouvoir faire changer les choses. Oui.
Mais ce combat autour de l'endométriose, c'est pas uniquement le fait d'en parler. Quel est l'objectif, justement, à long terme de votre engagement ?
Et il y en a plein. Il y a un des premiers, c'est de faire reconnaître cette maladie comme une maladie longue durée. Donc ça veut dire une meilleure prise en charge. Ça veut dire que quand, pour l'instant, il n'y a pas de cure de cette maladie, il faut savoir quand même ça. Il n'y a pas de cure, il n'y a pas vraiment d'études épidémiologiques. Donc quand vous arrivez, vous souffrez, déjà il y a 7 ans de latence entre le moment où vous souffrez et le moment où vous découvrez que vous avez la maladie. Donc ça, il faut réduire cet écart. Il faut former les médecins, parce que la plupart des médecins, au départ, c'est des généralistes, puisque vous êtes une ado, vous n'allez pas avoir forcément un gynéco. Ils ne savent pas les reconnaître. Il y a plein de gynécos qui ne savent pas non plus le reconnaître. Donc en fait, c'est une maladie très très populaire, en le sens que il y a beaucoup de femmes, si vous commencez à discuter autour de vous, vous vous rendrez compte qu'en fait, il y a plein de femmes autour de vous qui sont atteintes. Mais pour autant, il n'y a pas de cure, il n'y a pas de médicaments. La seule solution, c'est qu'on est obligé de soigner les symptômes. Donc, on vous file la pilule ou de la ménopause chimique ou des antalgiques. Et merci, au revoir. Et pourtant, c'est la première cause d'infertilité en France. Donc, c'est un vrai problème sérieux qui empêche les femmes d'avoir des relations sexuelles normales. Elles ont mal. Ça empêche les femmes d'avoir une vie sociale. C'est une raison, enfin, c'est un motif de précarisation. Elles perdent leur travail. Puisque quand vous pouvez pas sortir de votre lit une fois par mois, plusieurs jours, ben, en fait, votre patron, il a aucune compassion pour ça. Donc, voilà. Donc, il y a la prise en charge médicale, il y a la prise en charge psychologique, il y a la reconnaissance de cette maladie comme une vraie maladie, il y a tout ça. Et il y a surtout un combat contre cette espèce de patriarcat millénaire qui a fait accepter l'idée aux femmes que souffrir pendant les règles, c'est normal. Et ça, c'est absolument pas normal.
Zimbize hija, hizo zangu. Oh, mwana, mwana wangu. Imaisha kaya timangu. Oh, mwana, mwana wangu. Kamjudo eshelea bawe wangu. Chende tien shi hanawe gamkozo yero ho tu wanza woneta bo kam swibirifu chayabo wendao ishelea unanze uparise wema waheri ishele angabo wenji washa. Oh, mwana, mwana wangu. Mjudo eshelea, bawe wangu.
Bon, on a évidemment reconnu Wild World hein, de Cat Stevens, sorti en 70. Sauf que c'est pas de l'anglais, là, Imani.
Non, c'est pas de l'anglais, c'est du comorien.
Comment vous est venue l'idée d'interpréter cette chanson en comorien, donc la langue où vous venez?
Oui, c'est ma langue maternelle. En fait, Wild World, c'est une chanson que je voulais faire. J'ai fait 4-5 versions en anglais. Et en fait, violoncellistiquement, enfin, ça ne marchait pas. Donc j'étais à deux doigts de laisser tomber. J'écoutais ça chez moi. Ma mère qui était là me dit, et c'est une anecdote en fait qui est vraiment drôle, me dit, ah tiens, c'est une chanson en comorienne que tu as adaptée en anglais.
Ah oui.
Voilà, donc elle, quand elle était jeune, quand cette chanson est sortie, il y avait un artiste comorien qui s'appelle Abou Chouahib, qui avait fait comme ça une adaptation sur un bout de papier à la radio comorienne, qui avait tourné beaucoup en fait. Donc ma mère n'a jamais su que c'était une version de Cat Stevens, une version anglaise. Elle a toujours connu cette chanson comme une version comorienne. Donc quand elle m'entend la chanter, en plus, elle est hyper nostalgique. Elle se dit, ah tiens, je me rappelle, j'avais 20 ans, j'écoutais ce truc en comorien. Et donc on a cherché la version partout. On a même retrouvé le chanteur qui s'en souvient plus du tout parce qu'il était jeune. Il se rappelle qu'il avait fait comme ça un peu à l'arrache. On a retrouvé l'ancien directeur de la radio. Enfin bref, on a fait un travail d'archéologie pas possible. Et en fait, on s'est retrouvés, enfin, on n'avait rien. Et donc, je me suis dit avec ma mère et ma cousine, parce que moi, je parle pas aussi bien le comorien qu'elle, qu'on allait faire notre propre adaptation en comorien. Et du coup, je me suis permis de changer un peu le sens, même si les mots, c'est les mêmes, parce qu'en fait, le comorien, vous pouvez dire avec un seul mot plusieurs choses, et donc c'est pratique. Et je trouvais que la façon dont Cat Stevens s'adressait à cette femme, C'est, je la trouvais pas très bienveillante en fait. Il lui disait quand même bonne chance dans ce monde, mais
débrouille-toi.
Bonne chance, voilà, t'as qu'à crever quoi presque. Et ouais, donc du coup je me voyais pas trop défendre ça. Donc d'un coup avec l'adaptation, c'était une mère qui s'adressait à sa fille et qui lui disait Oh baby, 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 it's a wild world. Et c'était pas pareil.
Beaucoup plus bienveillant, quoi.
Voilà. Voilà.
Avec sa voix, on peut transmettre les mêmes émotions, quelle que soit la langue. Imani, je vous pose la question parce qu'il y a un autre titre sur cette chanson, c'est Jacques Brel. Ne me quitte pas. La langue induit, le choix de la langue induit aussi une forme d'émotion.
Moi, je pense, après, l'émotion, c'est l'émotion. C'est-à-dire que si vous chantez avec vos tripes, le cœur, les gens, même s'ils comprennent pas votre langue, ils vont être touchés. Je dis ça parce que quand j'étais jeune, je parlais pas du tout l'anglais. Et je me souviens d'une chanson d'Eric Clapton, ou même des chansons de Tracy Chapman, sur lesquelles je pleurais. Et quand j'ai appris l'anglais et que j'ai compris de quoi il parlait, ben, j'ai pleuré deux fois plus. Par contre, la langue, elle va changer les sonorités, c'est sûr. Elle va changer la manière dont votre voix, elle va sonner. Et donc, peut-être que quelque part, ça induit quelque chose sur l'émotion, mais je ne crois pas quand même.
Parce que vous avez choisi donc la version anglaise de Ne me quitte pas de Jacques Brel. Pour quelle raison ?
En fait, je n'aurais jamais fait Ne me quitte pas en français. Ce n'était pas du tout dans le répertoire que j'avais choisi. C'est une chanson qui a été reprise un milliard de fois, qui a été très, très bien reprise par mon gourou Nina Simone. Donc, bon, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Ce n'était pas du tout dans ma liste. Jusqu'à ce que, pareil, je tombe dessus par hasard. Moi, je ne la connaissais pas, alors que c'est une version qui existe depuis la fin des années 60. Et je me suis dit, tiens, si tu reprends Ne me quitte pas, il faut le faire en anglais. Parce que, en fait, quand on fait une reprise avec des violoncelles, c'est une autre façon de découvrir une chanson qu'on connaît déjà. Et en anglais, c'est un double effet qui se coule, quoi, d'une certaine manière. Et en plus, j'aime bien la version anglaise. Parce que la version française, elle est dramatique. Le mec s'est plié pour lui, elle ne reviendra pas, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, enfin je veux dire, on peut pas faire plus bas que ça. Tandis que la version américaine, c'est si tu t'en vas, je serai dévasté, mais si tu restes, voilà ce que je te propose. Et ça j'aime bien. J'aime bien, c'est ce côté un peu ouais, positif, en tout cas il y a de l'espoir quoi.
If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in a summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long. And the moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away.
Et vous évoquiez il y a un instant, Imani, la version de Nina Simone de cette chanson de Jacques Brel. Nina Simone qui a joué, on le sait, un très grand rôle dans votre envie de chanter. Nina Simone, c'était aussi une grande chanteuse, mais c'était l'incarnation aussi du fait d'être noir dans l'Amérique des années 60 et 70, un petit peu comme Billie Holiday ou comme Josephine Baker qui va rentrer bientôt au Panthéon le 30 novembre prochain. C'est une décision, cette panthéonisation qui vous a fait plaisir. C'est un moment important pour vous.
Je sais pas, j'ai été très, comment dire, je savais pas tellement comment réagir à cette nouvelle, parce que je me dis que ça doit être beau, effectivement, pour sa famille, qu'il lui a survécu, d'être enfin reconnu. Je trouve qu'on met toujours beaucoup de temps à reconnaître des choses évidentes, je sais pas pourquoi. Et donc on a parlé beaucoup d'elle, Et plutôt sur le fait qu'elle va rentrer au Panthéon que ce qu'elle a fait vraiment, ou ce qu'elle a apporté, ou qui elle était.
Et c'est aussi au nom de ce qu'elle a fait qu'elle a sa place là-bas.
Oui, oui. Mais je trouve que c'est et à la fois une bonne chose, et à la fois finalement, tout ça c'est un peu futile quelque part, sans vouloir insulter personne, mais là où elle est, à mon avis, je crois qu'elle s'en moque.
Painters painting all love, pictures of only white angels. Painter painting our times in shadows of yesterday. Following all the wicked strokes, a painter from ages gone. Painters painting saints in church. How do you know that God is white? Painter, if you paint with love, paint me some black angels now. All good blacks in heaven. Painter, show us that you care. Come, you forget the blacks. If God wants good blacks with him, how come you don't paint our skin? If you put love in your heart, we blacks have love in our soul. Paint us in your churches too. Painter painting all angels. Paint me some black angels now. Painter, if you paint with love, paint me some black angels now. For all good blacks in heaven, paint me some black angels now.
Little Black Angel, c'est sans doute la chanson la moins connue de l'album Imani. Pourquoi l'avez-vous choisie ?
Elle n'est pas très connue en France, c'est vrai. Elle est très connue au Mexique. Ça s'appelle Angelitos Negros. Excusez-moi pour mon espagnol pas bon. J'ai pris allemand à l'école. Mais c'est une version que Eartha Kitt a faite en anglais, qu'elle a faite d'abord en espagnol, dans un espagnol parfait, elle, par contre. Et elle a fait une version en anglais pour la télé américaine à l'époque, dans les années 60, que moi j'ai vu sur laquelle je suis tombée par hasard et qui m'a scotché. Donc c'est une chanson qui demande aux peintres de l'époque, donc on est quand même en 29, pourquoi si vous mettez de l'amour dans votre art, vous ne peignez pas les anges en noir. Donc c'est vraiment une histoire, c'est vraiment en 1929 déjà, les gens réclamaient d'être inclus dans le paysage dans le paysage quoi. Et elle cette version anglaise, elle est magnifique. Elle est là, elle est toute droite avec un col roulé noir, plan fixe caméra, il y a pas de chichi. Et elle est là en larmes, mais digne et forte. Et je me suis dit ah oui, il faut faire cette chanson. Et en plus la mélodie elle est très forte, le texte n'en parlons pas. Voilà, c'est pas connu. L'idée c'était pas seulement de faire des titres connus, l'idée c'est de faire des grandes chansons et c'en est une.
Vous êtes une artiste engagée, Imani. Sur cet album, il y a par exemple la reprise du titre du duo Tatum, All the Things She Said. On dirait un hymne féministe, hein, tel qu'on l'entend comme ça. On se souvient aussi, évidemment, à propos de féminisme, de votre travail sur la bande originale du film d'Audrey Dana, Sous les jupes des filles, dont vous partagez à la fois d'ailleurs l'engagement féministe et l'engagement écolo aussi. Et je ne pouvais pas vous recevoir dans cette émission sans penser à ça.
Take a breath, rest your head. Close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin?
Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my stare, I'm in command. Do you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin.
Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right.
Trois versions de cette même chanson, Don't Be So Shy, Imani. Je pouvais pas ne pas vous les faire entendre dans l'émission parce qu'il se passe pas de semaine dans ma vie à moi sans que je la passe en une fois, deux fois, trois fois en boucle l'une ou l'autre de ces trois versions, les vôtres, celles de Sherika Sherard. C'est un de vos plus gros succès, sans doute votre plus gros succès international. Qu'est-ce qui pour vous fait le succès d'une chanson? C'est quoi une bonne chanson? Vous utilisiez l'expression tout à l'heure. C'est quoi une bonne chanson? C'est une chanson qui marche, une chanson qui touche le public.
Ouais, c'est pas facile. Si j'avais vraiment la formule, je l'aurais faite. Je me serais acheté un château quelque part. Et... non, mais je pense que ce qui fait une bonne chanson, c'est une mélodie qui est entêtante, qui est prenante, qui reste dans la tête, mais sans pour autant être un jingle de pub. Voilà. Les meilleures chansons qu'on entend quand on commence à faire les premiers pas dans la vie, c'est vraiment les ritournelles d'enfants, en fait. Les enfants, c'est un bon test. Moi, en tout cas, sur ce projet, j'ai fait écouter d'abord et surtout à mes enfants les chansons pour voir comment ils réagissaient. Et donc, une bonne chanson, c'est une chanson où la mélodie, elle est forte, elle est entêtante, elle est claire. Et le texte aussi, les gens, il faut que les gens ils puissent s'en emparer. Il faut que ce soit et touchant et suffisamment clair pour que les gens... Ils puissent s'en emparer. Je crois que c'est ça. Après, on se bat tous pour faire la bonne chanson. Le succès de cette chanson, honnêtement, je ne le comprends toujours pas, mais c'est comme ça.
Merci beaucoup. Merci Imani. L'album Voodoo de Cello chez Fingzik, Imani en concert le 13 octobre à Argenteuil, le 16 à Aix-en-Provence, le 28 à Varsovie en Pologne, le 10 novembre à Bordeaux, le 12 à Soissons, le 15 novembre à Paris au Théâtre du Châtelet, et ça continue ainsi en décembre à Nantes et au Mans, et la tournée reprend ensuite après les fêtes au mois de janvier. Merci encore et bonjour à vous Alain Pilou.
Bonjour Jean-François, bonjour Imani.
Jean cet hôtel campanile après nos PA sur la ville. Je rédige cette note de frais et je rêve de congés payés. Tous les jours je garde la flamme, j'ai le sourire de Superman.
Tertiaire Blues, Nicky de Miller, un artiste Alain qui, avant de se produire en solo, faisait partie d'un groupe.
Vous savez tout, Jean-François, les Bratz, au début des années 2000, ça a été douloureux. Beaucoup de déceptions, Nicky a beaucoup mélangé ce qui était amitié et ce qui était show business. L'adolescence, c'est une époque où on se construit en tant qu'être humain, où on se fait des amis. Et lui, c'est une époque où il a rencontré des professionnels de la musique qui étaient plus ou moins bienveillants. Donc ce fut une expérience à la fois merveilleuse, parce que vivre toutes ces choses, c'était formidable, et en même temps douloureuse. Nicky de Miller adore les concerts, et à cette époque, ils en ont donné beaucoup, et sur des scènes très prestigieuses. C'était incroyable de vivre ça pour lui, mais à 17 ans, on peut penser que certaines personnes sont vos amis, alors que ce sont simplement des gens intéressés qui veulent se faire de l'argent. Donc finalement, ça a été douloureux, insiste-t-il. Les Bratz ont un peu grillé son adolescence, ils n'ont fait que travailler. En même temps, c'était sa passion, et il était certain déjà à l'époque qu'il ne voulait faire que de la musique.
Le chanteur de notre groupe est présent sur ce disque Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie.
Didier Vampas, des Vampas, une présence très désirée par Nicky de Miller.
Je retrouve Didier Vampas demain pour tourner un clip. Didier Vampas, c'est mon parrain musical. J'ai beaucoup joué avec lui à l'époque de mon premier groupe, les Bratz. J'étais leur rodi et puis un jour ils m'ont dit « Viens sur scène avec nous, on va reprendre une de tes chansons à l'époque ». Ensuite, Didier a fait un album solo et il m'a fait l'honneur de m'inviter pour un duo sur son premier album en solo. Donc moi je voulais pas de duo sur cet album Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie, mais il fallait que Didier soit là parce qu'il fait tellement partie de mon ADN.
Bipolaire, Burnout, Nicky De Miller et Didier Vampas. Nicky De Miller qui publie donc Alain son premier mini-album en 2012.
Oui, mais il n'était pas du tout prêt, il n'avait pas encore digéré l'expérience Bratz et très honnêtement, il ne savait pas du tout ce qu'il voulait faire en tant que chanteur. Du coup, Nicky a arrêté la musique pendant un bon moment. Durant 4-5 ans, il n'en a plus fait. Il va expérimenter beaucoup de résignation après les Bratz. Il a 18 ans et après que les Bratz aient joué avec Iggy Pop and the Stooges au Zénith de Paris, il a le bac en poche. Il arrache in extremis vu qu'il n'avait jamais vraiment pu se consacrer aux études. Il rentre donc en entreprise directement. Nicky ne savait pas qu'on pouvait gagner sa vie en étant musicien. Personne ne lui avait jamais parlé d'intermittence dans sa famille. Sa mère, qui était artiste peintre, était entretenue par son père qui travaillait dans la finance. Donc dans son logiciel, on avait soit un boulot normal, soit on était artiste et on ne gagnait rien ou pas grand-chose. Il a donc cherché un boulot pour gagner sa vie. Il est rentré dans une boîte d'événementiel. Il est devenu commercial pendant 5 ans. Il vendait de la pub. À l'époque, il ne pensait plus à la musique.
Alors le travail est d'ailleurs évoqué dans ce disque.
Nicky parle même d'une carrière irrésistible. Traduction.
Une carrière irrésistible, cette phrase est tirée de la chanson Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie. Elle fait un petit clin d'œil au livre Le démon de Hubert Selby Jr., dans lequel un homme va construire une carrière irrésistible et pourtant ne jamais trouver l'épanouissement personnel dans cet accomplissement. C'est un peu ce que je ressentais lorsque j'étais salarié, j'avais beau monter en grade, ma carrière avait beau être irrésistible aux yeux de certains, je n'étais absolument pas heureux.
Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie. Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie. Il est entré par la petite porte, celle des gens inconnus. Ground Zero. Il voulait se faire une place en ville, trouver une place au soleil. À la défense, sous les buildings, l'homme regarde le ciel. Un jour je serai là-haut. Un jour je serai là-haut. Un jour je les dominerai tous.
Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie, Nicky De Miller dans le clip de ce morceau sort ce mois-ci. Alors je rappelle le titre de l'album, hein, Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie.
Alors de ces trois proverbes à base d'hommes, lequel, lesquels pourraient-ils faire sien ou pas ? Homme plaideur, homme menteur, proverbe français. Homme sans ennemi, homme sans valeur, proverbe bosniaque. Ou bien l'homme est le miroir de l'homme, proverbe turc.
Je prendrai sans hésiter le proverbe bosniaque, car je pense qu'il faut savoir trancher parfois, il faut savoir prendre des risques, et il faut savoir se faire détester.
Dites-moi, d'où appelez-vous l'Algérie? Je ne connais pas du tout. Attendez, j'aimerais discuter. Attendez, j'aimerais vous parler.
Call Center, Nicky De Miller en concert demain, jeudi 23 septembre, au Point Éphémère à Paris, avec Donald Pierre en ouverture. Merci Alain. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec Queenie, la marraine de Harlem, une bande dessinée qui nous raconte l'incroyable destin de Stéphanie Sinclair, martiniquaise, devenue reine de la loterie clandestine de Harlem dans les années 30. Un album publié aux éditions Anne Carrière. Les deux autrices, Elisabeth Colomba et Aurélie Lévy, seront avec nous et vous m'en direz des nouvelles.
RFI, la sélection.